Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Boris went to Oxford, he got his degree in robbing people's taxis with deceptive policies.
Bonjour à tous. Et de trois, troisième élection jeudi au Royaume-Uni en moins de 4 ans et une certaine lassitude chez les électeurs qui aimeraient bien en finir avec cette saga Brexit qui traîne en longueur. D'un côté, les travaillistes de Jeremy Corbyn promettent un nouvel accord et un nouveau référendum. De l'autre, le Premier ministre conservateur Boris Johnson s'accroche à son mantra « Get Brexit done », réalisons le Brexit. Mais première question, Boris Johnson sera-t-il réélu dans sa circonscription, Duxbridge and South Ruislip, au nord-ouest de Londres? Ce n'est pas sûr et cela pourrait provoquer aussi une crise institutionnelle. Car au Royaume-Uni, le chef du gouvernement n'est ni nommé ni élu, c'est le chef de la majorité qui doit donc être aussi député, qui devient naturellement Premier ministre. La situation pourrait donc être inédite. Reportage à Uxbridge, signé Marie Billon.
Ils sont une dizaine de volontaires du Parti travailliste à se retrouver près d'un rond-point dans un quartier résidentiel d'Uxbridge. Bonnets, gants et écharpes sont de mise, même s'il est midi et que le soleil brille. Alors que plusieurs jours après l'annonce de ces élections, sur le site de Boris Johnson, on trouvait encore les arguments de campagne de 2017, le Labour, lui, avait déjà commencé à faire du porte-à-porte à Uxbridge. Et ce matin encore, James motive ses troupes.
Nous voulons frapper à toutes les portes, nous n'avons que quelques semaines, et on avance vite. Si on continue à avoir autant de volontaires qu'aujourd'hui, ça va être rapide.
Feuille de route et adresse à la main, les volontaires affinent leur stratégie. Certains sont même venus de la circonscription voisine pour participer.
Je suis venu pour donner un coup de main. J'ai grandi ici et ma mère habite encore dans le quartier. Mais je vis au sud de la rivière, à Kingston, où les travaillistes ne pourront jamais l'emporter. Donc je concentre mon énergie ici.
Lynn n'est pas la seule. Une autre de ses camarades de campagne a été encouragée par la branche locale de son parti à venir frapper aux portes d'Uxbridge plutôt que chez elle. Cette concentration des efforts et des talents, bien sûr, c'est pour détrôner le député actuel qui se trouve aussi être le Premier ministre Boris Johnson.
Ça c'est sûr, c'est un incompétent, un menteur. Il est trop à droite, je n'ai pas de temps à perdre avec lui.
Notre but est de rentrer dans les livres d'histoire en étant les premiers à faire perdre son siège à un Premier ministre. C'est très simple. Enfin, le but est simple, y parvenir c'est une autre affaire, mais nous pensons que nous pouvons y arriver.
En frappant aux portes de cette rue bordée de maisons cossues, certains militants reçoivent un accueil chaleureux, d'autres sont rejetés plus ou moins rapidement. Vous êtes travailliste, alors non merci, dit cette dame. Malgré tout, le Labour est optimiste. Boris Johnson a été parachuté à Uxbridge en 2015. Il avait alors obtenu 10 000 voix de plus que les travaillistes. En 2017, il a été réélu, certes, mais avec seulement 5 000 voix d'avance. Et ce n'est pas leur seul atout, dit Neil, un des militants, en insérant un prospectus dans une boîte à lettres.
Je pense qu'on peut le faire. Il y a beaucoup d'étudiants dans le coin. La circonscription est devenue plus classe ouvrière ces 5 à 10 dernières années. Et Ali est un bon candidat, un gars du coin. Il ne fait pas partie de l'élite qui est en ce moment au pouvoir, issu des écoles privées, de familles aisées. Il est plus représentatif de la population qui vit ici.
Ali Milani, 25 ans, candidat d'origine iranienne, est très présent sur les réseaux sociaux. Il poste souvent des photos de lui en campagne dans les rues d'Uxbridge, bien plus souvent en tout cas que son rival, Boris Johnson. Mais Ali Milani est loin de faire l'unanimité. Des tweets antisémites ont refait surface. Il s'est excusé d'avoir publié ses commentaires, mais les accusations d'antisémitisme qui rongent le parti tout entier sont un véritable obstacle électoral pour la gauche. Et ça n'est pas le seul. Il suffit de parler à quelques personnes dans le centre d'Uxbridge, sur la rue piétonne qui longe la station de métro.
Je n'ai pas vraiment envie de voter pour Boris Johnson. Le candidat Labour marque de bons points, il est jeune. Mais un vote pour lui, c'est un vote pour Jeremy Corbyn. Et je ne veux certainement pas lui donner ma voix. J'ai voté contre le Brexit et les libéraux démocrates veulent rester dans l'UE. Donc je voterai peut-être pour eux. Je déciderai au tout dernier moment, je pense.
J'ai voté travailliste toute ma vie, mais la dernière fois j'ai voté conservateur et c'est encore ce que je vais faire cette fois. Parce que je n'aime pas Jeremy Corbyn et que je veux sortir de l'UE. J'en ai marre d'attendre.
Le chef du Parti travailliste est ce qu'on appelle un candidat marmite. Du nom de cette confiture noire, épaisse, visqueuse et salée, on aime ou on déteste. Mais c'est pareil pour Boris Johnson.
J'ai voté conservateur toute ma vie. Ma famille entière vote conservateur. C'est la première fois que j'hésite. Je me méfie de lui et je suis contre le Brexit.
Alors, Boris Johnson peut-il réellement perdre en son fief ? Aux bordures de la ville se trouve l'université de Brunel. C'est là que nous rencontrons le professeur de sciences politiques, Justin Fischer.
C'est possible, mais peu probable, pour deux raisons. Uxbridge est tenue par les conservateurs depuis très très longtemps. La circonscription a été l'une des seules à Londres à résister à la vague Tony Blair en 1997. La seconde est que les électeurs ici ont voté en faveur du Brexit lors du référendum.
Mais Justin Fischer sort quand même sa boule de cristal. Que se passerait-il si les conservateurs remportaient une majorité au niveau national, mais que le Premier ministre actuel lui perdait son siège, sachant qu'un chef de gouvernement doit absolument être membre du Parlement. La première solution, et la plus probable, dit le professeur, est que, battu, Boris Johnson démissionne en tant que leader du Parti conservateur. Cela déclencherait une élection interne. En attendant, un député de la majorité deviendrait Premier ministre par intérim. Mais depuis le 10 Downing Street, ce chef de gouvernement de circonstance pourrait faire deux choses.
Il pourrait y avoir une élection partielle inopinée. Un député se retrouve tout à coup nommé à la Chambre des Lords par le gouvernement. Un scrutin est organisé pour le remplacer et Boris Johnson est candidat. Ou alors, le Premier ministre peut directement nommer Boris Johnson à la Chambre des Lords, lui permettant alors de redevenir Premier ministre. Cela dit, même si beaucoup de pères du royaume ont été Premier ministre au XIXe siècle, la dernière fois, cela remonte au début du XXe siècle. Donc, je crois que même les plus traditionnalistes auraient du mal à accepter ça.
Boris Johnson, en tout cas, ne pourra pas être autant sur le terrain que ses rivaux. Premier ministre sortant et chef des conservateurs, il doit sillonner le pays. Il a 11 candidats contre lui, dont Ali Milani, bien sûr, mais aussi d'autres plus farfelus, comme le comte face de poubelle, Lord tête de sceau ou encore Yes, Lord du temps interplanétaire Jürgenstein.
Et on l'a dit, ce scrutin est serré. Les derniers sondages donnent une légère avance aux conservateurs. Mais il y a encore beaucoup d'indécis et comme à chaque élection, les instituts d'études politiques ont brossé le profil de l'électeur type, l'électeur cible. Et on l'appelle cette année le Workington Man, l'homme de Workington. On vous retrouve, Marie Billon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Un électeur très courtisé donc, dont le profil est très fouillé. Expliquez-nous.
Alors, Workington, c'est une ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre, dans la région de Cumbria, ancien bassin industriel touché en plein cœur par la désindustrialisation des années Thatcher. C'est l'une des régions les plus pauvres d'Angleterre, avec un taux de chômage au-dessus de la moyenne nationale. Workington, c'est aussi, plus largement, le nom d'une circonscription. Elle a été créée en 1918 et a toujours été détenue par le Parti travailliste, sauf pendant 3 ans, de 1976 à 1979. La région a aussi voté en faveur du Brexit, à 56% en 2016, mais sa députée Sue Hayman, travailliste, elle, est pro-européenne. Tout ça fait que l'électeur de Workington est la cible des partis, en particulier des conservateurs, qui espèrent piquer ce siège aux travaillistes grâce au sentiment europhobe. Le Workington Man, c'est donc l'électeur à convaincre pour ces élections. Le swing voter, comme on dit en anglais, l'indécis, qui pourrait aller à droite comme à gauche. En fait, c'est Onward, un centre de réflexion de droite, qui a identifié l'homme de Workington comme la cible type de ces élections, un homme blanc de plus de 45 ans, sans diplôme universitaire, pro-Brexit, inquiet du niveau de criminalité, prompt à sacrifier les libertés au nom de la sécurité, a dit le centre de réflexion, et fan de rugby league, une version assez violente du rugby.
Alors on peut le dire, c'est une description très précise.
Oui, et selon Nigel Farage, le chef du parti europhobe Brexit Party, c'est même dénigrant. Can I just say...
C'est une définition qui a été inventée par un think tank conservateur basé à Londres, et je trouve que c'est un ramassis de préjugés condescendants pour les gens de cette région.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques ont l'habitude, depuis les années 80, de définir l'électeur cible à chaque élection. Justin Fischer est professeur de sciences politiques à l'université de Brunel à Londres.
If we go back to
Dans les années 80, on parlait de l'homme de l'Essex. C'était quelqu'un issu de la classe ouvrière, mais qui s'était enrichi pendant l'ère Thatcher en devenant propriétaire de son logement HLM, par exemple, et qui pouvait passer des travaillistes aux conservateurs. En 1992, on a eu l'homme de Basildon, puis la dame de Worcester, est devenue l'électeur type du centre du pays.
Il y a aussi eu le Mondéomène en 1996, cette fois inspiré du nom d'une voiture, pas d'un endroit. La légende veut que Tony Blair a rencontré un homme en train de laver sa Ford Mondeo qui lui aurait dit que maintenant qu'il était auto-entrepreneur et propriétaire, il votait conservateur et non plus travailliste. C'est cette conversation qui aurait inspiré celui qui allait devenir Premier ministre à créer le New Labour.
Et Marie, est-ce que tous les médias britanniques ont donc foncé dans la ville de Workington ?
Et oui, et ils en ont trouvé plusieurs, de Workington Men. Le journal de droite Daily Telegraph, par exemple, a posé sa caméra dans un pub et a trouvé cet homme qui a voté travailliste toute sa vie.
Je m'appelle Will Pennington, j'ai 69 ans. Je suis de Workington, en Cumbria. Les conservateurs peuvent compter sur ma voix. Le Labour est en déroute totale. Ce sont tous des abrutis. Et je ne pense pas qu'ils représentent l'opinion des gens, dans cette région en tout cas. On veut sortir de l'Europe. Ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Faut en finir. On a voté pour sortir de l'UE. Sortons.
Alors cet homme est-il vraiment la clé des élections ?
Alors ça n'est pas aussi simple que ça. Effectivement, la ville de Workington est Labour. Et oui, la région a voté pour la sortie de l'Union européenne. Mais on peut aussi vivre à Workington, voter travailliste et vouloir rester dans l'Union européenne. La gauche propose un second référendum pour se donner une chance de rester dans l'UE. Ces électeurs-là, les pro-européens, pourraient donc rester travaillistes. Mais les pro-Brexit alors ? Eh bien, à cause de tout ça, certains ne veulent plus voter Labour. Alors où vont-ils aller ? Peut-être vers les conservateurs, comme Will Pennington, qu'on vient d'entendre. Mais culturellement, dans ces régions, voter Tory, c'est compliqué. Alors, beaucoup risquent de donner leur voix au parti du Brexit de Nigel Farage. Résultat, les votes eurosceptiques seront potentiellement divisés. Et c'est le Labour qui pourrait bien en profiter. Le Workington Man est peut-être finalement le rêve inatteignable des conservateurs.
Merci Marie Billon, on vous retrouve très bientôt. Et ce sont d'autres sondages que nous allons explorer dans cette deuxième partie d'émission, des sondages prospectifs. En 2050, un tiers de la population européenne aura plus de 60 ans. Selon le baromètre Ipsos, les seniors sont avant tout attachés à leur indépendance, à leur logement aussi, avec un point noir, 57% des plus de 80 ans disent souffrir de solitude. Un chiffre particulièrement élevé en Italie, le pays le plus âgé de la planète après le Japon. Une importante association s'est emparée du problème du vieillissement et du bien-être en lançant un numéro de téléphone gratuit. Il a pour nom le fil d'argent et il permet de distribuer un large éventail de services. Explication à Rome, signé Olivier Bonal.
Se faire livrer des courses ou des médicaments à domicile, transporter vers un hôpital, aider pour des démarches administratives ou tout simplement bénéficier d'une écoute pour rompre la solitude, le fil d'argent fait des miracles en Italie. Depuis près de 20 ans, ce numéro gratuit change la vie de plus de 13 millions d'Italiens âgés de plus de 65 ans. À chaque canicule qui frappe le pays, le numéro vert s'affiche sur les écrans aux côtés de ceux des urgences. Lancé par une association soutenue par le syndicat des retraités, cette hotline s'est faite une place dans la société. Tout le monde a entendu parler de ces 45 000 volontaires répartis sur le territoire de la péninsule, à commencer par les zones les plus reculées, là où les services publics sont défaillants comme le manque de structures de santé. Le fil d'argent fonctionne tous les jours de l'année, de 8h à 20h. Les appels sont transférés vers des centres régionaux où œuvrent des bénévoles, souvent des personnes âgées de 50 à 65 ans. Ces dernières années, en particulier, le fil d'argent a été un antidote contre la solitude. Un cas à Bologne a fait parler de lui, celui de cette dame de 75 ans qui a téléphoné au carabinier pour avoir de la compagnie. Grâce au numéro vert, la retraitée fait désormais partie d'une association culturelle pour personnes âgées. À l'approche des fêtes en cette fin d'année, le fil d'argent et son réseau de bénévoles proposent des repas ou des spectacles, un rempart contre l'isolement et le vieillissement inexorable de la péninsule italienne.
« Au Portugal aussi, on s'intéresse aux seniors dans la capitale Lisbonne. Le sujet est d'autant plus urgent que la ville se vide de ses habitants. Les logements sont pris d'assaut par la plateforme touristique Airbnb, accentuant encore l'isolement. Marilyn Darcy a suivi toute une escouade d'enquêteurs au sein du projet Radar. Leur but, mieux connaître les seniors, recenser leurs besoins et agir.
Diogo et ses deux collègues ont pour mission de rencontrer chaque personne de plus de 65 ans qui vit dans le quartier. Ils passent de porte en porte. Parfois, quelqu'un répond et laisse entrer le petit groupe flanqué de deux policiers. La police est partenaire du projet Radar. Mais le petit groupe se heurte parfois à la résistance des personnes âgées, comme Joséphine, 74 ans, qui refuse de donner son numéro de téléphone.
Bon, là maintenant, pour moi, ça suffit. Je sais utiliser un ordinateur. Merci beaucoup pour votre attention, mais maintenant, au revoir. Monsieur l'agent, mettez tout le monde dehors. Je n'y suis pour personne. S'il vous plaît, ça suffit. S'il vous plaît.
Persuasion, patience, l'équipe Radar a pour consigne de ne rien brusquer. Il s'agit de constituer une base de données volontaire. Le questionnaire auquel répondent les personnes âgées qui le souhaitent sert à cerner les besoins et garantit l'anonymat. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Alice, enquêtrice, se fait congédier de la sorte.
C'est pas grave. La prochaine personne que l'on va rencontrer va être très sympathique, j'en suis sûre. On en rencontre beaucoup, ça équilibre. Les questionnaires reposent sur la base du volontariat. Si les personnes âgées ne veulent pas, eh bien ce n'est pas grave, car elles changent souvent d'avis. Ensuite, elles appellent la plateforme Radar pour demander à remplir le questionnaire. Entre-temps, elles ont parlé à leurs enfants ou aux voisins, et à chaque fois que l'on nous demande de revenir, on le fait. Ce n'est pas rigide, et ce type d'interaction fait partie du projet Radar.
Radar, qui attaque sa troisième et dernière phase de relevé démographique, veut dresser un portrait le plus fidèle possible de la réalité des 24 quartiers de Lisbonne. Maria de Lourdes, 69 ans, est très entourée, mais elle a conscience des changements.
Des voisins, malheureusement, je n'en ai pas beaucoup. Ils sont deux ou trois encore dans les parages. Les logements touristiques ont changé la donne. C'est triste. Moi, je suis née ici et je trouve triste de ne pas avoir des gens avec qui on peut discuter tous les jours. Ou bien leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, parce qu'on va faire les courses. C'était comme ça autrefois pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez elles. On les aidait.
Dans les immeubles pris d'assaut par les touristes, les personnes âgées confinées aux derniers étages s'isolent de plus en plus. Les questionnaires permettent aussi de cerner leurs besoins les plus urgents. Alice.
Il y a d'abord le recueil d'informations de base. L'identité de la personne, son adresse, sa date de naissance, son téléphone. Ensuite, on pose les questions du protocole Radar pour dépister les situations à risque, comme les faibles revenus, la solitude, les carences alimentaires, l'hygiène de la maison, les difficultés dans les activités au quotidien. En somme, on fait l'inventaire des besoins.
Lutter contre l'isolement et la dégradation des conditions de vie, c'est l'objectif ambitieux de Radar. Maria da Luz Cabral, responsable du projet au sein de la Santa Casa da Misericordia.
Radar a pris de l'ampleur et est devenu un mécanisme pour anticiper les besoins en lien avec la réalité, pour que nous, les partenaires, nous ayons une capacité de réponse adaptée pour prévenir les situations de solitude et d'isolement. Il faut le reconnaître, 90% des personnes de notre échantillon ne sont pas connues des services sociaux. On a aussi pour objectif de valoriser les quartiers les plus impliqués en créant, avec les commerçants, des réseaux solidaires.
Au début de 2020, Radar aura recensé 30 000 personnes de plus de 65 ans vivant seules ou avec quelqu'un du même âge. La cinquantaine de jeunes formés par la Santa Casa pour l'enquête sera mise au service de ce que la mairie a décidé de nommer des tables communautaires. Un service de proximité transversale uniquement destiné aux plus de 65 ans isolés. Le projet global de Lisbonne Cité de tous les âges, dont Radar n'est qu'un instrument, devrait donc disposer d'outils spécifiques pour la catégorie des personnes âgées. Une première et une mini-révolution d'adaptation sociale.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se dit à demain.
autour de la question.